Madame, monsieur, je vous souhaite une belle journée. Vous êtes à l'écoute de Radio Alliance Plus sur 103.2 FM, mais aussi vous nous écoutez à Nîmes en DAB+ ou sur radioallianceplus.fr. Je suis le docteur Jacques Jean, je produis et j'anime l'émission que vous écoutez qui se nomme « Votre santé, un trésor ». Nous avons la joie renouvelée de rencontrer une nouvelle fois Madame Georgina Dufoy, que tout le monde connaît pour sa longue et brillante carrière politique et ses responsabilités au plus haut sommet de l'État français. Bonjour à vous, Madame Dufoy.
Bonjour.
Et mes remerciements renouvelés pour avoir l'amabilité de venir à nouveau à la rencontre des auditeurs de Votre Santé, un trésor sur Radio Alliance Plus. Aujourd'hui, c'est l'affaire dite du sang contaminé, qui évidemment intéresse la santé et donc mon émission, qui va nous intéresser et interpeller. En avril 1991, en tant que ministre des Affaires sociales de la Solidarité nationale, vous avez été mise en cause à l'affaire du sang contaminé, ainsi que M. Laurent Fabius et M. Edmond Hervé, secrétaire d'État chargé de la santé. Précisons tout de suite que vous avez été relaxé le 9 mars 1999 par la Cour de justice de la République, l'accusation d'homicide involontaire n'étant pas retenue, donc rien ne s'est passé en fait. Aucun des acteurs de cette époque, médecin administratif, politique, n'a été jugé coupable au motif que les connaissances scientifiques de l'époque ne permettaient pas de prendre d'autres décisions. En 1985, la séropositivité était considérée par certains scientifiques comme un signe de protection ou même une immunité contre le sida. Une petite anecdote personnelle, j'ai eu mon premier cas de séropositivité lorsque je faisais des remplacements à Saint-Gilles. J'ai eu un patient qui était séropositif, c'est un des premiers patients que j'ai eu. Et j'ai suivi l'évolution quand j'étais encore étudiant, tout ce qui se passait. Et une autre petite anecdote aussi, lorsque j'ai fait mon service militaire à Rötlingen en Allemagne, il y a un canonnier, puisque j'étais dans l'artillerie, qui est venu séropositif, qu'on a été obligé de réformer, de renvoyer donc, dans sa région militaire. Donc j'ai connu le début du sida et j'ai eu l'occasion d'accompagner.
C'était en quelle année?
Alors, c'était en 87. Mm-hmm. Et j'ai accompagné au CHU, où je faisais la sophrologie, des SIDN. Notamment, je me rappelle très bien d'une patiente qui avait zéro lymphocyte et qui avait en permanence 41-42 de fièvre. Mm-hmm. Donc je lui faisais la sophrologie en palliatif. Quoi. Mm-hmm. Alors, cette fâcheuse expérience que vous avez vécue, avouons-le, était prémonitoire en rapport avec la pandémie Covid-19, qui a bouleversé l'équilibre mondial, il faut le savoir. La maladie du coronavirus Covid-19, qui apparaît en 2019, elle est provoquée par un coronavirus SARS-CoV-2. Elle apparaît le 16 novembre 2019 à Wuhan, dans la province du Hubei, en Chine centrale, avant de se propager au monde entier. Pouvez-vous, s'il vous plaît, nous instruire sur l'ambiance de cette affaire dite du sang contaminé et la position dans laquelle vous vous trouviez à l'époque, c'est-à-dire une responsable politique devant prendre des décisions en ce qui concerne une maladie émergente, inconnue scientifiquement et médicalement?
Oui, c'est particulièrement intéressant en ce moment. Là, on est donc en 2025. C'est particulièrement intéressant de se dire, au fond, que connaissent les gens qui gouvernent à l'heure actuelle. L'un des problèmes, c'est qu'on a l'impression que les gens qui gouvernent savent tout. Or, ce n'est pas le cas. Ce n'était pas le cas en 1985, quand j'étais ministre des Affaires sociales, et ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et on a toujours tendance à penser que quand il y a une difficulté, il y a un grand méchant qui a fait en sorte que les décisions soient mauvaises. Et c'est quelquefois vrai, et ça demande à être vérifié, mais c'est souvent faux. Je crois qu'on est souvent dans une espèce d'arrogance de la connaissance qui fait qu'on a l'impression qu'on a tout compris. Et que parce que la science a dit ceci ou a dit cela, on a raison. Alors, ceci est une erreur. Ceci est une erreur grave qui vient de l'orgueil humain, qui est quelque chose de très, très, très partagé. En 1985, quand j'étais donc ministre des Affaires sociales, beaucoup de choses se sont passées. Et pas seulement celle-là. Mais celle-là était assez impressionnante parce qu'on voyait que le sida commençait à se développer et qu'il arrivait de la côte ouest des États-Unis, essentiellement dans les communautés homosexuelles. Et donc, on pensait dans un premier temps que c'était une maladie liée aux homosexuels, ce qui n'était pas le cas, mais c'est ce qu'on pensait à l'heure actuelle, à ce moment-là. Et elle arrivait en France, mais personne ne savait, même Luc Montagnier, qui est un homme qui a eu le prix Nobel parce qu'il avait, mis à jour le virus du sida avec d'autres, même Luc Montagnier ne savait pas ce que représentait la séropositivité. Or, on voyait pas mal de gens séropositifs en excellente forme. Donc, on ne savait pas du tout ce que c'était. Et ce qui nous était demandé, c'était précisément de prendre en compte le sida comme une maladie très, très, très grave, ça c'était évident, mais comme quelque chose qui était en mouvement. Or, le seul mouvement qu'on avait, c'était la séropositivité des gens.
Exactement.
Et à ce moment-là, même moi, on m'a dit, mais madame, vous avez beaucoup de chance, vous êtes séropositive, donc vous êtes protégée du sida. Pourquoi est-ce que les gens m'avaient dit ça? En juillet 1985, les gens m'avaient dit ça parce que à l'époque, on se disait que le sang transportait la maladie, ce qui était vrai. Mais du coup, les Français ne donnaient plus leur sang pour les accidents de voiture. Et du coup, l'ensemble du monde de la transfusion sanguine était en pénurie de sang. Et moi, ministre de l'époque, j'étais aussi porte-parole du gouvernement, je crois, à l'époque même. On me dit, mais madame, vous êtes emblématique, allez vous faire, faire une transfusion pour montrer que ça risque rien. C'est ce que j'ai fait. Devant les caméras en pagaille, j'ai fait une transfusion pour que... Une prise de sang, pour me dire, mais ça risque rien, vous pouvez y aller donner votre sang.
Oui, parce qu'à l'époque, à l'époque, les gens, il y avait une phobie du sang. C'est-à-dire que dès que les gens voyaient du sang, ils paniquaient.
Les gens ont facilement une phobie du sang. Voilà, mais là, c'était un sang qui était sale.
Voilà, donner du sang, on pensait que ça apportait le sida, quoi, je veux dire.
Ça risquait d'apporter le sida. Donc, les gens ne donnaient plus. Donc, pour les accidents de voiture, c'était grave. Donc, on m'a demandé d'aller faire une prise de sang devant toutes les caméras possibles et imaginables pour que les citoyens continuent à donner leur sang. C'est ce que j'ai fait. En juillet 85, il y a la totalité des archives là-dessus. Et ils ont analysé mon sang. Et ils m'ont dit, ah madame, vous avez de la chance, vous avez des anticorps, vous ne risquez rien, vous êtes séropositive. Bon, j'ai dit, mais qu'est-ce que ça veut dire? Et on est en juillet. Ça veut dire que vous êtes immunisé. Or, j'ai des anticorps parce que j'ai eu une hépatite A quand j'avais 10 ans et que mon corps sécrète des anticorps. Donc ça n'a rien à voir avec les anticorps de la séropositivité. Ça pour vous dire qu'on était très très loin d'y comprendre quelque chose. Et néanmoins, il nous était demandé de prendre des mesures. Et on le doit à Laurent Fabius, qui a vraiment secoué le cocotier, qui a dit, eh ben, il faut le faire. Et on a été, ce qui est assez étonnant à voir avec du recul, on a été parmi les premiers pays du monde à prendre des mesures contre les d'analyse du sang, d'éloigner tous les gens qui étaient séropositifs, etc. etc. Et après ça, c'est nous qui avons le procès. C'est assez étonnant. Étonnant.
Alors, la procédure que vous évoquez a duré de 1991 à 1999, soit 8 longues années.
Ah oui,
vous qui vous occupez tant des autres, qui avez la culture de l'autre, de la rencontre et du bien-être de l'autre, comment avez-vous vécu ces souffrances qui vous ont été infligés alors que tout un chacun savait très bien que vous n'y étiez pour rien?
Tout un chacun, non. Vous savez, dans la rue, les gens, ils n'aimaient pas ça. Et les gens, ils me crachaient dessus, ils changeaient de trottoir quand ils me voyaient, ils me criaient assassin. Donc la plupart des gens ont cru ce qui était dit dans les télés et dans les radios. Et les télés et les radios disaient que nous étions des assassins. Et ça a duré 8 ans. Bon, c'est long quand même. Et donc, il y avait des gens qui réfléchissaient, mais il y avait beaucoup de gens qui sont rentrés dans la calomnie et dans la... Et bon, on ne peut pas leur en vouloir, parce que beaucoup de radios et de télé accusaient tout le temps. Alors, si vous voulez, premièrement, comment on vit ça? D'abord, on n'est pas forcément... on n'est pas du tout indifférent. Quand les gens vous envoient assassin à la gueule tout le temps, c'est un peu pénible, quoi. Mais en même temps, c'était une belle occasion pour moi, une occasion étonnante, mais pas souhaitée bien sûr, mais de mettre en pratique cette rencontre avec Christ qui avait eu lieu 3 ans avant. La rencontre avec Christ date du 8 août 88, et là on passe en 91. Donc vous voyez, quelques années, pas beaucoup, on est encore des bébés dans la foi là. Mais ça m'a donné l'occasion de me dire, mais après tout, si la parole de Dieu est vraie, ma paix, ma joie et mon amour viennent de ma relation avec lui, pas de ce qu'on dit de moi. Et ça m'a entraîné sur un chemin qui est magnifique et que je n'aurais jamais pratiqué, que je n'aurais jamais rentré sur ce chemin si je n'avais pas eu cette remarquable coup de pied au derrière. C'est-à-dire l'accusation permanente d'être quelque chose que je n'avais pas fait, évidemment. Donc ma conscience profonde, elle était tranquille, je savais bien qu'on ne l'avait pas fait. Mais l'accusation prenait une telle importance qu'elle devenait réalité, elle devenait vérité. Je savais bien que ce n'était pas vrai, mais...
La vérité imposée.
Mais oui, à force d'entendre toujours la même chose,
c'est ce qu'on appelle la vérité
ça devient
imposée.
La vérité. Comment vous dites vérité
imposée? La vérité imposée, c'est-à-dire qu'à force de dire qu'il fait nuit, ben il fait nuit.
Voilà. Alors il faut faire face à la vérité imposée. Et puis faire face pour ses enfants, qui étaient ados à l'époque et qui ont souffert. Pour mon mari aussi, c'est, pour les amis, pour tous les gens proches, c'est très dur, c'est pas agréable. Donc, il y a un côté très douloureux, mais il y a un côté opportunité extraordinaire d'aller à Christ plutôt que d'écouter ce que les gens disent sur vous. Et bien ça, je peux vous dire que si je n'avais pas eu ça, je ne serais pas allé à Christ comme j'y suis allé. Et bien, et la grande merveille de ma vie est d'avoir s'être rendu compte que Christ était vivant, qu'il était réel, que ce n'était pas du bidon, et que je pouvais lui parler, qu'il pouvait me parler. Ben ça, c'est génial.
Alors,
donc, pour en arriver à votre truc, être accusé pendant 7 ans, presque, oui, 8 ans presque, vous dites, c'est vrai, vous avez raison, de quelque chose que vous n'avez pas fait, mais qui devient une réalité de par l'accusation que les gens ont sur vous, a été une opportunité. C'est là où je dis que tout concourt au bien de celui qui aime Dieu et qui est appelé selon ses desseins. Tout. Eh bien, vraiment heureux. Merci la leçon.
Alors, si vous, pour résumer, on ne peut pas résumer ce vécu et la profondeur de vos sentiments, bien évidemment, mais si vous me permettez aussi l'expression, c'est votre conversion,
oui.
Cette croyance en un Christ
une
vivant.
Conversion, oui.
En un Christ vivant qui vous a soigné. Et qui
Absolument.
Vous a permis de supporter, de pouvoir survivre.
Écoutez, je sais que vous êtes médecin, et donc le mot soigner est un mot qui, pour vous, a une grande importance. Il m'a transformé.
Mais soigner, c'est transformer.
Vous avez raison. Mais souvent, dans le mot soigner, on entend quelque chose de plus cautérisant. Je lui dois la vie. Quand Jésus dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie », il a raison. Il est la vie. Mais pour y arriver à le croire, il vous faut un gros coup de pied au derrière.
Il faut ce qu'on appelle l'épreuve, et lui
oui.
a vécu l'épreuve de la croix. Alors
Exactement.
Je vous propose une trêve musicale avec une sonate de Beethoven, toujours, on a vu la première émission, la 14, opus 27, numéro 2, dite Claire de Lune, composée en 1801 et publiée en 1802, appelée sonate de la tonnelle du vivant de Beethoven. Oui. Le surnom Claire de Lune, sous lequel elle est largement connue aujourd'hui, lui fut donné par le poète allemand Ludwig Rastab en 1832. Je vous propose d'écouter le troisième mouvement, Presto agitato et en ut dièse mineur par Frédéric Bernachon.
Thank you.
Vous écoutez Votre Santé, un trésor, une émission produite et animée par le docteur Jacques Jaume sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. Nous recevons aujourd'hui Madame Georgina Dufoy. Merci à vous d'être encore parmi vous. Je vous ai invité à mon émission, en fait, pour un sujet de droit. Lorsque j'ai préparé à la faculté de médecine mon diplôme de réparation juridique du dommage corporel, nous avons fait beaucoup de droit, bien évidemment. Et lorsque nous avons abordé la notion de responsabilité, vous avez été au cœur des débats. Votre importance en droit provient de votre déclaration sur TF1 le 4 novembre 1991. Je vous cite « Je me sens tout à fait responsable, pour autant je ne me sens pas coupable, parce que vraiment à l'époque on a pris des décisions dans un certain contexte qui étaient pour nous des décisions qui nous paraissaient justes. » Votre déclaration a été résumée par la formule devenue célèbre et maintenant immortelle en droit. Les étudiants l'apprennent, je l'ai appris. Responsable mais pas coupable. Pouvez-vous nous parler de cette genèse juridique ?
Écoutez, d'abord, je suis très contente que vous me posiez la question et je vous remercie parce que souvent, les gens prennent des positions...
J'ai toujours de bonnes questions.
Ok, ok. Je prends acte. Enfin, pourquoi est-ce que je l'ai dit de toute façon, comme vous venez de le dire, ça s'est passé en 91, à un moment où le matraquage médiatique n'était pas encore vraiment lancé. Mais le journal Le Monde avait déjà fait un très long article qui dénonçait ma présence sur cette affaire. Dire qu'on est responsable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on peut répondre d'eux. Ça veut dire qu'on peut expliquer pourquoi. Ça veut dire qu'on ne se taille pas, quoi. On ne s'en va pas. On fait face. Ça veut dire qu'on pense que l'action que l'on a accomplie rationnellement et au plus juste de ce qu'on croyait juste. Responsabilité est une notion que j'ai, dans tous les cas, dans mes veines, en tant que réformée. Je crois que les protestants dans ce domaine-là ont un sens de la responsabilité assez marqué parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre eux et le Tout-Puissant. C'est une des différences entre les réformés et les catholiques, et j'aime autant les catholiques que les réformés, donc il ne s'agit pas de poser un problème de jugement, mais c'est une différence dans la façon d'aller à Dieu. Et c'est vrai qu'en tant que réformé, on va à Dieu directement. Même si parfois il est bien agréable d'avoir des intermédiaires, mais c'est autre chose. Donc la responsabilité de l'être humain sur la Terre, pour moi, est une chose absolument évidente. Et ma responsabilité dans les mots que j'emploie ou dans les actes que je fais, mon papa et ma maman m'ont appris que chaque acte et chaque mot avait un sens qui t'engage soit dans ta parole immédiate, soit dans ta parole à terme. Donc pour moi, la responsabilité, elle est inscrite dans mes gènes. Et je l'ai beaucoup ressentie en tant que maman. En tant que maman, on est responsable de ses enfants. On n'est pas responsable forcément du fait qu'il fasse une bêtise à un moment donné. On peut être en partie responsable, mais pas complètement. Donc, pour moi, j'avais une différence entre la responsabilité et la culpabilité. La culpabilité, c'est une faute intentionnelle devant une situation donnée. Alors, je me sentais responsable, mais pas coupable, parce qu'on savait très bien qu'on n'avait pas fait d'erreur. Depuis le début, on le savait. Or, il était dit partout, dans tous les médias possibles et imaginables, que nous avions fait des erreurs, on ne savait plus très bien pourquoi. On ne comprenait pas d'ailleurs pourquoi, parce qu'au nom de quoi est-ce qu'on aurait fait ça ? C'est-à-dire retarder les décisions. Beaucoup de gens nous disaient « c'est à cause des sous ». Mais il n'y avait pas de sous dans l'affaire. Donc c'était...
Alors vous avez en partie répondu à la question que je voulais vous poser, mais je vais quand même vous la poser. En droit constant, parce qu'il faut préciser quelque chose et je voudrais le faire. En droit constant et pur, selon la Cour de justice de la République, elle-même, vous n'étiez ni responsable au niveau juridique. Vous venez nous dire que vous aviez une responsabilité morale, hein, vous nous l'avez expliqué. Vous n'aviez commis, en tant que chef de service, aucune faute détachable du service. Le seul responsable était subséquemment l'État lui-même, dirigé par une gouvernance ministérielle. Et vous n'étiez nullement coupable, Vous n'aviez commis aucun acte illégal, vous venez de nous l'expliquer. Alors pourquoi ce besoin d'exprimer à toutes et à tous cette responsabilité que vous ressentez ?
La responsabilité, pour moi, elle est l'honneur d'une fonction comme celle-là. Si vous dites « je m'en fous complètement, ça n'a aucune importance, il s'est passé ce qui s'est passé, mais je m'en balance », vous n'êtes pas digne de la fonction que vous accomplissez. Et donc, pourquoi dire une responsabilité ? Mais tout simplement parce que je crois que c'est la grandeur de ce genre de métier, c'est d'être responsable. Et il y avait quelque chose qui me touchait beaucoup plus, et qui me touche beaucoup plus aujourd'hui d'ailleurs, c'est les maladies nosocomiales. Dans tous les hôpitaux, il y a des maladies nosocomiales qui sont toujours présentes, malgré tous les efforts que font les hôpitaux. Et le ministre est responsable. Est-ce qu'il est coupable ? Il faut voir, il faut vérifier. La plupart du temps, non. Mais il l'est quand même. Et il est quand même responsable. S'il n'y a pas un responsable de ça, c'est qui ? C'est personne ? C'est le néant ? Non, le ministre est responsable. Donc, il ne doit pas être condamné pour ça. Il doit répondre d'eux. Et pour moi, responsable, ça veut dire répondre d'eux. Et donc, je ne suis pas tout à fait juridique comme vous l'avez exprimé, mais c'est quand même la philosophie de ce que j'ai voulu dire.
Oui, mais vous l'avez. Et ça a marqué le droit. Je peux vous dire que ça a marqué absolument le droit.
Je sais bien.
Et alors, je voulais vous remercier de quelque chose que vous venez de dire, d'exprimer, c'est que la responsabilité, c'est l'honneur.
Mais oui.
Et l'honneur, c'est pas très à la mode actuellement.
Non, j'ai jamais été à la mode.
Et alors, on aimerait plus vous suivre et que l'honneur revienne plus à la mode et qu'il y ait un peu plus de penser à l'honneur. Eh bien, Madame Dufoy, je vous remercie encore infiniment d'avoir partagé à nouveau avec nous votre vécu, vos sentiments, vos émotions et d'avoir eu l'amabilité de venir nous rencontrer. Merci encore beaucoup pour tout ce que vous avez fait et que vous avez énormément fait et accompli. Merci à vous et bonne continuation de vie. Sur un chemin, nous le ressentons toutes et tous, où l'autre est toujours primordial pour vous. Et vous nous l'avez dit, vous êtes accompagné d'une personne quand même de très haute qualité. Merci à vous, madame.
Merci à vous. Alors, et on pourrait évoquer quand même la mémoire du docteur Guterres en terminant, qui a beaucoup marqué Nîmes parce qu'il a mis au monde beaucoup de gens. À Nîmes, dans des conditions très extraordinaires. À l'époque, on lui doit beaucoup sur le plan du bien-être de l'enfant qui naît à l'accouchement.
Et je conseille aux éditeurs sur le podcast, sur le site, de reprendre l'émission qui est dédié à Robert Guterres et à sa fille qui a écrit un livre sur sa vie et son œuvre, parce qu'on peut parler vraiment d'une œuvre. Il a introduit quand même l'accouchement sans douleur et la sophrologie.
Oui. Et à une époque où ce n'était pas du tout à la mode.
Ce n'était pas du tout à la mode. Alors, quelque chose d'extraordinaire que je me suis rendu compte rarement après l'avoir bien connu, je crois que c'est même en préparant l'émission. Il faisait des cours d'éducation sexuelle. Et donc, j'étais au collège, et il est venu, c'est lui, je me suis rappelé, qui est venu me faire des cours d'éducation sexuelle, ce qui a été interdit par la suite.
Mais oui.
Donc, il était quand même ouvert. Il a travaillé pour les femmes enceintes, pour les enfants. Il était président du comité d'éducation pour la santé, dont il m'a fait rentrer, mais j'étais secrétaire général. C'est quelqu'un qui anime au niveau médical, a fait énormément de choses. Je demande aux auditeurs de prendre le podcast et de prendre l'émission. Je vous remercie d'évoquer Robert, qui était un ami, surtout un maître, mais qui est devenu un ami.
Oui, je comprends ce que vous voulez dire.
C'était
un maître, mais un maître proche.
Pour moi, c'était un maître.
Je comprends très bien que vous l'ayez considéré comme ça.
Ah, c'était un maître. Alors j'ai l'habitude de finir mon émission par une rubrique de fin d'émission, les livres sur la santé aujourd'hui, donc je ne déroge pas à mon habitude. Donc pour notre édition, la dernière émission, on dit qu'il n'y a qu'un livre, c'est la Bible. Est-ce que vous avez toujours cette opinion?
Oui, c'est pas marrant.
Est-ce que, par exemple, vous aimez... Quel livre vous aimez dans la Bible? Les psaumes,
Je crois que si on ne prend pas tout, ça veut dire qu'on n'accepte pas...
Oui, non, mais d'accord, mais on n'est plus
non,
sensible.
Non. Bah, c'est une vraie réponse. C'est une vraie réponse, ce n'est pas une réponse bidon. Je crois que si on n'accepte pas tout, et moi, par exemple, j'ai beaucoup de peine à lire l'Apocalypse, mais si on n'accepte pas tout, c'est qu'on n'accepte pas non plus toutes les facettes incroyablement immenses de ce Dieu créateur.
Mais ça, c'est...
Et voyez-vous, je crois que c'est d'autant plus important d'en parler maintenant quand on est à l'aube d'une énorme transformation de civilisation qui est par l'intelligence artificielle et par la compréhension de ce que représente le réel quantique. Et ces deux transformations majeures vont amener une société qui est complètement différente de ce que nous avons connu. Et donc, est assez inquiétante parce qu'on ne connaît plus les bases, on ne sait plus très bien où aller. Donc, où sont nos bases? Où sont nos pieux qui nous enracinent? Ben, ils sont tranquillement dans la Bible. Ça vaut la peine d'être de la lire.
Vous me donnez deux idées d'émission. Donc, ça serait l'intelligence artificielle au service de la politique de la santé.
Non. L'intelligence artificielle au service de l'une. Au service. Est-ce qu'elle sera au service? Arrivant dans une société où le citoyen ordinaire pourra avoir connaissance de toutes les connaissances dans toutes les langues.
Et la lecture de l'Apocalypse de Saint-Jean et le bien-être ou le mal-être qu'elle peut générer.
Regardez aussi, si vous en avez le temps, combien le monde quantique, quand il devient une réalité, est bouleversant. C'est bouleversant de penser qu'on a toujours pensé qu'une table était une table et que quand on comprend, on réalise que le réel que l'on voit n'est pas le réel. C'est terriblement impressionnant.
Eh bien, merci à vous, madame, infiniment. Je remercie Louis à la technique et Chanel Ouizuel. Je vous renouvelle mon annonce sur l'adhésion à Radio Alliance Plus à laquelle vous pouvez souscrire pour que notre radio puisse vivre. Merci d'avance. En attendant, prenez bien soin de vous. Je vous remercie de votre attention, de l'écoute de votre santé un trésor sur Radio Alliance Plus sur 103.2 FM. À bientôt, je reste votre bien dévoué.